Camarades et amis, on savait déjà que le gouvernement prétendument socialiste ne faisait rien sans l'accord du patronat. Eh bien, on sait depuis lundi, et l'abandon du projet de loi sur la famille qui ne fera rien sur le terrain sociétal sans l'accord des plus réactionnaires de ce pays. Il n'y avait pourtant rien d'extraordinaire dans ce projet de loi, puisque le gouvernement avait décidé d'en éliminer tous les points faisant débat, comme l'accès à la procréation médicalement assistée, la PMA, pour les couples de femmes tant décriés par les manifestants de dimanche dernier. Ce projet de loi ne faisait que prendre en compte, prudemment et avec bien du retard, la réalité des familles actuelles, séparées, recomposées, monoparentales, notamment en facilitant l'adoption, en instaurant un statut pour les beaux-parents. Mais courage Fillon, le gouvernement a préféré reculer devant ce que la droite compte de plus conservateur, de plus réactionnaire. Et ce n'est pas sa première reculade sur ce terrain. Hollande, dès son arrivée au pouvoir, a enterré le droit de vote des étrangers aux élections locales. Le gouvernement ne fait pas seulement reculer la société sur le plan matériel, mais aussi sur le plan moral et politique. Car oui, c'est un constat, du racisme à l'homophobie, en passant par l'antisémitisme et l'opposition à l'avortement, tout un tas d'idées réactionnaires refont surface. Dimanche dernier, on a vu manifester à Paris de nouveau les bigots et les dévots, les nostalgiques de la France de papa, les bourgeois des beaux quartiers prêts à se saisir de tous les prétextes pour imposer leur vision conservatrice de la vie et de la famille. Le week-end précédent, ce sont les intégristes catholiques anti-avortement qui avaient manifesté avec les groupuscules d'extrême droite, vomissant leur antisémitisme. Ils étaient accompagnés des partisans de Dieudonné, pas gênés d'être aux côtés des pires racistes anti-musulmans et anti-arabes. L'UMP et le Front National ont pris des distances avec ces manifestations, parce qu'ils ne voulaient pas assumer les propos réactionnaires, voire fascisants, de certains participants. Mais certains de leurs dirigeants et beaucoup de leurs militants ne se sont pas gênés pour en être. En réalité, les uns et les autres prospèrent sur le même terreau et se confortent mutuellement. Aux uns, la rue et les outrances, aux autres, le Parlement et le discours châtié, pour défendre les mêmes préjugés obscurantistes, ceux-là même qui ont fait les beaux jours du régime de Vichy et du travail famille-patrie. Tous ces gens-là font ressurgir des débats que l'on pouvait croire derrière nous. Leurs idées représentent un danger, car comme on le voit en Espagne avec les menaces sur le droit à l'avortement, le recul des idées peut vite nous renvoyer 30 ans, 40 ans en arrière. Il en va de même pour les idées racistes et antisémites. Et puisque certains parmi les travailleurs prêtent l'oreille aux insanités de Dieudonné, je voudrais prendre quelques instants pour revenir dessus. Dieudonné n'est pas qu'un provocateur. Il véhicule une vision raciste de la société. Et le racisme anti-juif ne vaut pas mieux que le racisme anti-noir, anti-arabe ou anti-musulman. Et il ne faut pas s'étonner de sa proximité avec les Le Pen, ou de voir défiler ses fans avec ceux qui prêchent la France aux Français, car tous les racismes se ressemblent et s'assemblent. La banalisation de ces idées représente un danger pour les travailleurs, car elle ouvre un champ de manœuvre à la droite la plus hostile au mouvement ouvrier. Et dans cette banalisation, le Parti socialiste lui-même a une lourde responsabilité. Valls, celui-là même qui se fait le chantre de la République, à lui une responsabilité particulière. Oh, il veut en imposer dans son habit de ministre de l'Intérieur. Mais qui a tenu ses propos xénophobes en disant qu'il manquait des blancs, des blancos, des whites dans la ville d'Evry ? Valls, en personne. Et quand il déclare, droit dans ses bottes, que les Roms ne peuvent pas s'intégrer, il fouille, lui aussi, à pleine main, dans les poubelles du Front National. Alors oui, de Dieudonné jusqu'à Valls, en passant par le Front National et l'UMP, chacun participe du climat nauséabond. Les travailleurs ne doivent pas laisser pénétrer le poison raciste dans leur rang. Et à Lutte ouvrière, nous défendrons toujours ce principe que, quelle que soit leur origine, leur nationalité et leur religion, les travailleurs sont unis dans leur sort d'exploiter, et c'est ensemble, dans le combat contre l'exploitation, qu'ils pourront s'en libérer. Et face au danger de la montée des idées réactionnaires, il n'y a rien à attendre d'un gouvernement. Pour l'heure, les plus réactionnaires s'en tiennent à proclamer leur vision de la civilisation. Mais demain, ils voudront régenter les mœurs et imposer leurs lois contre d'abord les travailleurs immigrés, puis contre tous les travailleurs. Les travailleurs ne doivent jamais oublier que si pour ces gens-là, les femmes sont vouées à être uniquement des mères de famille, les travailleurs, eux, sont voués à l'exploitation et à obéir. La remise en cause des droits des femmes, la résurgence de la xénophobie et de l'antisémitisme sont l'expression du recul dans lequel nous entraîne la société capitaliste. Cela va de pair avec la montée du chômage et de la pauvreté, avec la mise en concurrence des travailleurs et le repli sur soi qui en découle. Sans une réaction collective et massive des exploités, la société reculera matériellement et moralement. L'absence de lutte laisse libre cours à un bon nombre d'idées réactionnaires. Aujourd'hui, les réactionnaires apparaissent comme les seuls à vouloir se battre contre le gouvernement, à s'organiser et à se donner les moyens de peser. Si l'on veut que la société aille de nouveau de l'avant, le monde du travail doit se manifester sur son terrain, celui de l'émancipation sociale, en utilisant ses armes, la grève, les occupations d'usines, les manifestations. Le gouvernement justifie son recul sur le projet de loi sur la famille en expliquant qu'il veut se concentrer sur la lutte contre le chômage. Alors parlons-en. Avec les derniers chiffres du chômage, en décembre, le cinéma autour de l'inversion de la courbe du chômage est bel et bien enterré. Et cela ne pouvait pas en être autrement. Quand chaque jour, une entreprise supprime des emplois ou ferme, quand tous les jours, des sites industriels sont rayés de la carte, entraînant dans leur fermeture celle d'une myriade de petites entreprises, le chômage ne peut qu'augmenter. De Peugeot jusqu'à ArcelorMittal, en passant par Petroplus, Doux, Alcatel, le gouvernement a laissé les grands groupes ajouter des milliers de chômeurs aux millions existants. Comment le chômage pourrait-il reculer dans ces conditions ? Ils ont voulu nous lanterner avec l'inversion de la courbe du chômage et maintenant, ils veulent nous lanterner avec le pacte de responsabilité. Et pour les médias, c'est reparti pour un tour et les experts de s'interroger gravement pour savoir si cette politique peut marcher, si elle peut faire reculer le chômage et créer des emplois. Quel cinéma ! Cela fait des décennies que tous les gouvernements, gauche, droite, baissent les cotisations, les impôts du patronat au prétexte de créer des emplois. Le résultat, ça a été l'augmentation constante du chômage. Oh, cette fois, Hollande le fait avec la suppression des cotisations familiales, l'équivalent de 30 à 35 milliards d'euros. Comme toujours, on nous ment en affirmant que cela réduira le chômage. La seule solution pour enrayer le chômage, pour stopper l'hémorragie des licenciements, c'est d'imposer des mesures contraignantes au patronat, interdire les licenciements et répartir le travail entre tous sans diminuer les salaires. La bataille pour l'emploi est le grand alibi à la fois pour imposer toujours plus de recul aux travailleurs et pour permettre à la bourgeoisie de se servir directement, à pleine main, dans les caisses publiques pour augmenter ses profits. Quand bien même Hollande maintiendrait le niveau des prestations versées aux familles, ce qui reste à voir, elle serait désormais payée par l'État, c'est-à-dire par nos impôts. Hollande prétend que les prestations familiales seront financées par des économies faites sur les dépenses publiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement que ce sont les classes populaires qui vont payer. Car le gouvernement ne touchera pas aux dépenses publiques faites en faveur du patronat. Il ne touchera pas aux 50 milliards que l'État verse annuellement aux banquiers en intérêt de la dette. Il ne touchera pas aux milliards versés à Dassault au titre de l'achat de Rafale. En revanche, il réduira le budget destiné aux communes, aux départements, aux régions. Il demandera à tous les ministères de serrer la vis. Il imposera des restrictions aux hôpitaux, à l'éducation nationale. Pour les travailleurs, il ne s'agira pas d'économie, mais de sacrifices. L'État continuera de servir de vache à lait aux grands groupes capitalistes. Le patronat peut être ravi, mais pour les travailleurs, c'est inacceptable. Et pendant qu'ils nous joueront la comédie du pacte de responsabilité, les lettres de licenciement tomberont pour les travailleurs de Goodyear, pour ceux du transporteur Maury Ducrot, pour les 700 jeunes intérimaires de l'usine de PSA à Poissy dans les Yvelines. Alors même que Goodyear fait des bénéfices, alors même que PSA va recevoir 1 milliard d'argent frais de la part du gouvernement. Alors qu'à la Bourse de Paris, le CAC 40 a augmenté de 15% en 2013 et que des centaines de milliards affluent à nouveau sur les marchés spéculatifs, le gouvernement s'attaque aux salaires et aux droits des travailleurs. Oui, ce gouvernement prétendument socialiste est passé corps et âme dans le camp de la bourgeoisie, et cela ne date pas d'hier. Alors si ce gouvernement est un ennemi des travailleurs, eh bien il faut le combattre sans hésitation et avec la même détermination que l'on mettrait à combattre un gouvernement de droite. Ceux qui, pendant 20 mois, ont fait mine de ne pas voir et de ne pas comprendre, ont lanterné les travailleurs et ils ne méritent pas leur confiance. Ceux qui, comme les dirigeants du Parti communiste ou comme Jean-Luc Mélenchon, avaient appelé à voter Hollande, ont fait croire que tout allait dépendre des choix politiques et personnels qu'il allait faire. Ils ont fait croire que les travailleurs étaient en droit d'attendre autre chose de Hollande que ce qu'il a fait depuis 20 mois. Eh bien non, il n'y avait rien à attendre de Hollande. Depuis toujours, il est dévoué à la bourgeoisie et au système capitaliste, comme l'était Jospin, comme l'était Mitterrand. Tous ceux qui cachent cette vérité trompent les travailleurs. Tous ceux qui prétendent, comme Mélenchon, pouvoir gouverner autrement, en protégeant les intérêts des travailleurs, sans avoir à remettre en cause la domination de la bourgeoisie sur l'économie, la propriété privée des entreprises et les lois du marché, sont des illusionnistes. Et ce n'est pas avec des illusions que les travailleurs pourront se défendre. C'est au contraire en étant conscient qu'au-delà du petit personnel politique, il y a les vrais dirigeants de la société. Ces grandes familles bourgeoises, les Peugeot, les Pinot, les Bolloré et autres Bettencourt, c'est eux qui tirent les ficelles, c'est ce pouvoir qu'il faut dénoncer et qu'il faut s'attaquer. À entendre gouvernement et patronat, le pacte de responsabilité comme les accords de compétitivité sont des accords gagnant-gagnant. Mais dans la société capitaliste, les accords gagnant-gagnant, ça n'existe pas. C'est la guerre. Tous les défenseurs du capitalisme le reconnaissent d'ailleurs. Cette société, c'est la concurrence entre capitalistes et dans cette période de crise, c'est plus que jamais la guerre. Et ce sont les travailleurs qui sont en première ligne. Car à qui est-il demandé d'être toujours plus efficace, plus compétitif? À qui est-il demandé de s'adapter, de vivre en fonction des commandes? À qui est-il demandé de sacrifier son salaire, son emploi, sa vie, en fonction des aléas de cette économie stupide? Aux travailleurs, bien sûr. Ils servent de chair à canon dans la guerre économique. Ce sont eux qui sont sacrifiés sur l'autel de la compétitivité. Les patrons gagnent à tous les coups, mais les travailleurs, eux, sont sûrs d'y perdre. Eh bien, ils n'ont aucun intérêt à se laisser enrôler dans la guerre économique des capitalistes. La guerre que les travailleurs ont à mener, c'est la guerre de classe. Les travailleurs doivent se battre pour eux, pour leurs revendications, pour défendre leur peau, car personne ne le fera à leur place. Oui, la lutte de classe existe. Mais pour le moment, il n'y a que la bourgeoisie qui l'amène. Et si les travailleurs ne l'amènent pas, c'est avant tout à cause de la direction des partis de gauche et des confédérations syndicales. Les grands partis de gauche ont une lourde responsabilité dans la démobilisation et la démoralisation des travailleurs, une responsabilité qui ne date pas d'hier. Le Parti socialiste, d'abord, qui à chacun de ses passages au gouvernement mène sans retenue la politique anti-ouvrière demandée par le patronat, qui se démène comme il peut pour défendre et gérer au mieux les intérêts des grandes familles bourgeoises, quitte à ce que ça lui coûte sa place aux élections suivantes. Le Parti communiste, quant à lui, est resté longtemps loin du pouvoir. Né en 1920, ce n'est qu'au lendemain de la guerre, en 1945, qu'il est entré pour la première fois au gouvernement. Il y est resté 2 ans, et n'y est revenu qu'en 1981 avec Mitterrand. Le Parti communiste a donc vécu le plus clair de son temps dans l'opposition. Mais même dans l'opposition, les dirigeants du PC ont inculqué l'idée que la seule perspective de changement pour la classe ouvrière devait passer par les élections pour avoir un bon gouvernement, une bonne Assemblée nationale. Et c'est devenu la raison d'être de l'activité militante. Les tout premiers militants du PC, enthousiasmés par la révolution russe et révoltés par l'union sacrée entre le Parti socialiste et la bourgeoisie, avaient inscrit dans leurs chromosomes que seules les luttes massives de la classe ouvrière pourraient changer le sort des travailleurs. Mais pendant des décennies, la direction du PC leur a inculqué le contraire et c'était déjà aller dans le sens contraire des intérêts des travailleurs. Or, dans l'opposition, les dirigeants du PC ont critiqué, dénoncé. Ils ont appelé à des manifestations et aux mouvements sociaux, mais ce n'était plus dans la perspective que ces luttes changent le cours des choses. C'était toujours pour renforcer la gauche gouvernementale et pour accompagner son retour au pouvoir. Et on a vu de quoi était capable la gauche au pouvoir. Avec Mitterrand d'abord, avec Jospin ensuite, on sait que la gauche est capable de justifier l'injustifiable pour faire la politique que le patronat demande. Et combien de fois les ministres communistes se sont retrouvés à prêcher la patience aux travailleurs, à justifier la rigueur salariale, les reculs des services publics, les privatisations. Combien d'ouvriers influencés par le PC se sont alors sentis trahis? Combien de militants ont été démoralisés et ont fini par abandonner l'activité militante? Et aujourd'hui, avec Hollande, sans être au gouvernement, les dirigeants du PC refusent de se placer clairement dans l'opposition en continuant de faire croire que le gouvernement peut encore redresser la barre. Et pour cause. Alors que le Parti socialiste mène au gouvernement une politique anti-ouvrière, le PC, pour sauver ses places dans les municipalités, fait liste commune avec le Parti socialiste dans de nombreuses villes. À la fondation du Parti communiste, le PC n'avait pas seulement pour perspective de lutter contre l'exploitation, c'était de la supprimer. C'était la perspective de renverser la société capitaliste et d'enlever à la bourgeoisie le pouvoir qu'elle a sur l'économie et son droit de mettre la société en coupe réglée. Eh bien, c'est avec toutes ces perspectives qu'il faut renouer et avec tous les combats petits et grands qui y mènent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas compter sur les directions des centrales syndicales pour organiser ces grands combats. À l'annonce du pacte de responsabilité, tout ce que le dirigeant de la CFDT a trouvé à dire au gouvernement, c'est chiche. Comme ce fut le cas avec l'accord national interprofessionnel, l'ANI, la CFDT va participer à la mise en place du pacte de responsabilité et aider le gouvernement à faire passer la pilule auprès des travailleurs. Quant à la CGT et FO, ils dénoncent à juste titre le cadeau au patronat, mais sans doute pas au point de boycotter la grande messe organisée par le gouvernement avec le patronat, où en l'absence de rapport de force, elle ne peut qu'aboutir à de nouveaux cadeaux pour le patronat et de nouvelles attaques contre les travailleurs. Eh bien, avec de tels amis, les travailleurs n'ont plus besoin d'ennemis. Nous savons, parce que nous sommes militants, que les luttes ne se décrètent pas. Mais on peut et on doit dire aux travailleurs que la seule issue pour le monde du travail, c'est de lutter, lutter collectivement, qu'ils ne doivent compter que sur leur propre force, que rien n'a jamais été donné aux travailleurs. Tout ce qu'ils ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat par la grève, par les occupations des usines, par les manifestations, non pas en discutant autour du tapis vert, mais en se faisant craindre du patronat. C'est uniquement à cette perspective qu'il faut préparer les travailleurs, car c'est la seule perspective qui vaille le coup, la seule qui leur permettra de sauver leur peau face aux attaques du patronat et du gouvernement. Nous espérons que la gravité de la crise actuelle, les menaces qu'elle fait peser sur la classe ouvrière et sur toute la société, la déconsidération du gouvernement de gauche feront mûrir les consciences. Personne ne peut deviner à quel rythme cette maturation se fera et à quel moment se produira ce basculement qui fera agir des millions et des millions de travailleurs refusant de continuer à être sacrifiés pour les riches. Dans les mois à venir, les travailleurs auront à s'exprimer dans les élections municipales d'abord, puis pour les élections européennes. Eh bien, il faut que les travailleurs se saisissent de ces occasions pour montrer qu'il existe dans ce pays une opposition ouvrière au gouvernement, pour montrer qu'il y a des travailleurs conscients de leurs intérêts et des luttes à mener. C'est pourquoi Lutte ouvrière présentera des candidats aux municipales dans de nombreuses villes et dans toutes les circonscriptions aux élections européennes pour que puisse s'affirmer le camp des travailleurs. Ces élections municipales seront la première occasion qui sera donnée aux travailleurs de dire ce qu'ils pensent de la politique du gouvernement. Même si beaucoup tenteront de limiter la portée du vote aux enjeux locaux, il aura une signification politique nationale. Alors les deux prochaines élections seront l'occasion pour les travailleurs d'exprimer leur colère contre la politique anti-ouvrière du gouvernement et d'affirmer leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation. Patienter, espérer une hypothétique reprise, voilà tout ce qu'offre le gouvernement aux travailleurs, alors qu'il y a urgence, alors qu'à cause du chômage, des millions de travailleurs sont menacés dans leur existence même. Sauf à interdire aux grands groupes de licenciés, on n'arrêtera pas la montée du chômage. Sauf à se mettre en travers des intérêts du grand patronat, on ne stoppera pas l'hémorragie. Les patrons nous répondent, il n'y a pas de travail à donner à tous. Eh bien, qu'on impose qu'il soit réparti entre tous, sans diminution de salaire, car il est inacceptable que l'emploi, l'unique richesse d'un travailleur, lui soit supprimé, et ce, quel que soit le prétexte des patrons. Et pour résorber le chômage, il faut des embauches, partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent même plus poser leur congé. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux où tous les 6 mois, un travailleur remplace un autre mis au chômage. Oui, cela coûtera au patronat. Mais les grands groupes ont de quoi payer, et à défaut, qu'ils puisent dans les fortunes privées colossales accumulées par les grands actionnaires. Il ne faut pas oublier qu'en pleine crise économique, les 500 familles les plus riches ont bien trouvé le moyen d'augmenter leur fortune de 25%. Alors c'est à leur tour de payer. Nous, les travailleurs, on a assez payé comme ça. Et ceux qui nous rétorquent que c'est irréaliste, c'est qu'ils considèrent que les fortunes de la bourgeoisie sont intouchables. Mais dans une société normalement constituée, l'évidence imposerait qu'en période de crise, l'argent serve d'abord à sauver les emplois, ce qu'il y a essentiel et de plus vital à la population. Pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1 700 € net. Et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, le gaz, l'électricité, les mutuelles, tous les produits de consommation, et ce, pour tous les salaires, toutes les pensions de retraite et tous les minima sociaux. Ce sont des revendications élémentaires. À travers ces objectifs, les travailleurs ne font en fait que revendiquer le droit à la vie. Mais c'est encore trop pour la bourgeoisie. Et vous connaissez son discours, il n'y a plus d'argent, augmenter les salaires, embaucher est impossible, le pays a un problème de compétitivité ou alors les caisses sont vides. C'est pourquoi ces deux objectifs, l'interdiction des licenciements et l'augmentation automatique des salaires en fonction des prix, sont liés à un troisième, incontournable, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. On ne peut pas et on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie, les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG ou des retraites chapeaux de plusieurs dizaines de millions. Les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation, trouvent normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires, millions qui seront dilapidés dans des caprices de riches ou pire encore, dans la spéculation. Le patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat pour imposer leur domination. La levée de ce secret doit faire partie du programme des travailleurs. Pour savoir la vérité, les travailleurs n'ont pas d'autre solution que d'aller mettre leur nez eux-mêmes dans les comptes, éplucher toute la comptabilité des entreprises, et là, ils auraient ainsi la preuve qu'on leur ment. La mobilisation générale ne se décrète pas. Il ne dépend pas d'un petit groupe ni d'aucun parti de changer la société. Les changements sociaux ont toujours été provoqués par l'évolution de l'état d'esprit de millions de travailleurs, par leur intervention sur la scène politique. Qu'en sera-t-il demain ? Personne ne peut le prédire. La situation peut changer rapidement dans un sens comme dans un autre. La première des choses, c'est de regarder la réalité en face. N'en déplaise à tous ceux qui pensaient que Hollande serait moins pire que Sarkozy, c'est pire. Non seulement parce que la situation matérielle du monde du travail a empiré, mais aussi parce que ces 20 mois de gouvernement socialiste ont fait reculer les travailleurs politiquement et moralement. Et c'est un constat, le Parti socialiste fait le lit du Front national. Il suffit de discuter un peu autour de nous pour savoir que certains, des travailleurs, des chômeurs, sont tentés d'exprimer leur colère en votant pour le Front national. Ils pensent ainsi mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ils se trompent lourdement. Depuis quelques années, le Front national a compris que son électorat réactionnaire, composé d'anciens de l'Algérie française, de racistes ou d'intégristes catholiques, ne lui permettrait pas d'accéder à la mangeoire. Ainsi, la dynastie Le Pen s'est diversifiée. La famille millionnaire fait désormais dans l'indignation sociale et dénonce le chômage, les bas salaires, les petites retraites. Toutes choses qui font croire à ceux qui ne savent plus à quel saint ou à quel diable se vouer, qu'elle, au moins, elle défend les ouvriers. Mais en fait, elle fait comme tous les autres. Qui ne déplore pas le chômage ? Qui ne dénonce pas les impôts qui pèsent sur les plus modestes ? Tout le monde sait le faire, même ceux qui sont responsables de la situation. Verser des larmes de crocodile est à la portée de tout le monde, de tous les démagogues. Encore une fois, dans cette société, et surtout dans cette période de crise, tous ceux qui ne sont pas déterminés à faire payer la bourgeoisie et à s'en prendre au profit des grands groupes capitalistes, aux exploiteurs, se préparent à gouverner contre les travailleurs. D'ailleurs, Le Pen ne s'en cache pas. Ceux qu'elle veut faire payer, ce sont les immigrés. C'est-à-dire un grand nombre d'entre nous qui faisons partie du monde du travail. Cela suffit à faire du Front national un parti anti-ouvrier, un ennemi mortel des travailleurs. Ceux parmi les exploités qui envisagent de voter pour le Front national en se disant qu'il faut les essayer, se tirent une balle dans le pied, parce que leur vote se retournera contre eux. Leur vote se mélangera avec ceux des pires réactionnaires, des petits patrons anti-ouvriers qui rêvent de faire disparaître le SMIC, le RSA, les syndicats, et se mélangera avec celui des racistes. Il sera interprété comme une critique du gouvernement sur sa droite. Il sera interprété comme l'exigence d'une politique encore plus dure contre les chômeurs, d'une politique encore plus dure contre les syndicats, encore plus dure contre tous les travailleurs qui veulent s'organiser, se battre et se défendre. Bien sûr, il faut rejeter le gouvernement. Bien sûr, il faut rejeter sa politique anti-ouvrière, mais en mettant en avant les intérêts des travailleurs contre ceux du grand patronat. Pour faire reculer ce patronat et le gouvernement, il n'y aura pas de miracle. Il faudra des luttes massives, profondes de la classe ouvrière. Mais quand l'occasion nous est donnée de nous exprimer dans les élections, et ce sera le cas dans les prochaines municipales et européennes, il faut que les travailleurs l'utilisent pour exprimer une colère consciente contre la bourgeoisie et contre ses serviteurs politiques, toute obédience confondue, du Parti socialiste au Front national, en passant par la droite et le centre. La gravité de la crise actuelle, les menaces qu'elle fait peser sur la classe ouvrière et sur toute la société, la déconsidération du gouvernement de gauche feront mûrir les consciences. Nous l'espérons. Personne ne peut deviner à quel rythme cette maturation se fera et à quel moment se produira ce basculement qui fera agir des millions et des millions de travailleurs refusant d'être lanternés alors que leur situation se dégrade. Aux municipales comme aux européennes, les votes en faveur des partis de la majorité présidentielle seront comptabilisés comme des votes en faveur de cette majorité de gauche, fût-ce avec des critiques. Les votes en faveur des partis de droite seront comptabilisés comme des votes en faveur du retour au pouvoir de ceux que les travailleurs ont subi du temps de Sarkozy. Quant aux votes en faveur du Front national, ils seront comptabilisés comme des votes en faveur d'une politique plus répressive, une politique encore plus réactionnaire que celle de Sarkozy. L'abstention pour un travailleur n'est pas une solution. S'abstenir, ce n'est pas seulement se détourner de ces partis qui représentent tous les intérêts de la grande bourgeoisie. C'est se détourner de toute politique, y compris d'une politique en faveur des travailleurs. Or, ces élections permettent de faire au moins un geste politique sans ambiguïté. Elles permettent d'affirmer la dignité ouvrière, la fierté d'appartenir à une classe sociale qui produit tout et qui fait vivre toute la société. Ce sera le sens des listes lutte ouvrière dans ces élections. Il est important que des candidats représentant le camp des travailleurs soient présents dans les prochaines élections, car il ne suffit pas de dire que l'alternance des partis de la bourgeoisie, gauche-droite, est un piège pour les travailleurs. Il faut surtout qu'émerge un parti qui représente les intérêts politiques et économiques de la classe ouvrière. Ce parti n'existe pas aujourd'hui. Les partis de gauche, qui d'ailleurs prétendent de moins en moins incarner les intérêts des exploités, sont devenus depuis longtemps des partis au service des grands patrons. Ce parti ne pourra surgir que si des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs reprennent confiance en eux et en leur classe et s'engagent sur le terrain de l'activité militante. Les élections peuvent faire franchir un pas, si petit soit-il, dans cette direction. Et chacun peut y contribuer en participant à la campagne électorale pour faire entendre le camp des travailleurs. Chacun peut y contribuer en participant aux listes lutte ouvrière pour les élections municipales, en cherchant à convaincre autour de soi, sur son lieu de travail, dans son quartier, dans sa famille. Et nous avons besoin de tout le monde. Alors, camarades, avant de passer à notre repas fraternel, je voudrais vous souhaiter à tous un bon courage pour tout le travail militant qui nous attend. Vive la classe ouvrière et vive le communisme.